suite, on fait un point sur l'information avec vous. Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les dispositifs de sécurité toujours en question après l'attentat de Nice qui a fait 84 morts jeudi dernier. Gérard Larcher, le président Les Républicains du Sénat, demande ce matin une enquête indépendante de l'inspection générale sur les moyens déployés le soir du 14 juillet. Une enquête dont le Parlement pourrait se saisir à tout moment, a déclaré Gérard Larcher chez nos confrères d'RTL. La sécurité, source de tension, on le sait depuis une semaine, entre le gouvernement et la mairie de Nice, avec son premier adjoint, Les Républicains, Christian Estrosi. Le quotidien Libération affirme de son côté qu'une seule voiture de police municipale barrait l'entrée de la zone piétonne de la promenade des Anglais, où est arrivé le camion utilisé par le terroriste. Une information qualifiée de contre-vérité par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Par ailleurs, quatre hommes âgés de 22 ans à 40 ans et une femme de 42 ans soupçonnés d'avoir été en contact avec Mohamed Lawayesh Boulel avant l'attentat sont déférés devant la justice antiterroriste après leur garde à vue en vue d'éventuelles mises en examen. C'est ce qu'a annoncé ce matin le parquet de Paris. Et moins d'une semaine après l'attentat de Nice, hier, députés et sénateurs sont parvenus à un compromis sur le projet de loi qui prolonge l'état d'urgence de 6 mois. En commission mixte paritaire, les députés ont accepté des amendements des sénateurs facilitant la fermeture des lieux de culte dans lesquels seraient tenus des propos qui incitent à la haine et à la violence. Autre amendement, interdire les rassemblements dont la sécurité ne serait pas assurée. Et alors que le débat sécuritaire monopolise la vie politique, c'est aujourd'hui que le projet de loi travail doit définitivement être adopté, 24 heures après un troisième et dernier recours à l'article 49.3 par Manuel Valls. Le Premier ministre a engagé une nouvelle fois la responsabilité du gouvernement hier pour faire passer le texte sans vote ni débat. Et comme l'opposition n'a pas l'intention de déposer une motion de censure et qu'une troisième tentative de motion de gauche n'est pas non plus envisagée, le projet de loi travail sera considéré comme adopté à 16h30 cet après-midi. Mais ce n'est peut-être pas la fin du combat politique, Violette Voldoir.
Les députés n'ont pas jeté l'éponge pour autant, mais leur combat est désormais juridique. Dès ce matin, plusieurs dizaines de députés de droite comme de gauche saisiront le Conseil constitutionnel. Et d'après nos informations, ils seront au moins 60, c'est le minimum requis. Alors sur quoi va porter cette saisine? On ne le sait pas encore précisément, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne portera pas sur l'intégralité du texte. Et c'est important, car si le Conseil donnait raison au gouvernement, il validerait la loi en plein cœur de l'été, et alors il n'y aurait plus aucun recours possible à la rentrée. Les députés veulent à tout prix éviter de se fermer cette porte. Au contraire, ils veulent ouvrir la voie à un combat juridique de longue haleine contre la loi travail en la contestant morceau par morceau devant le Conseil constitutionnel. Comment cela? Eh bien d'abord parce que toute saisine est suspensive, cela va retarder la promulgation de la loi. Et puis parce qu'attaquer les mesures indépendamment les unes des autres, cela augmente les chances de les enterrer purement et simplement. Ce combat-là, les syndicats en prendront le relais dès la rentrée. Ils prévoient déjà de contester pied à pied plusieurs articles de la loi travail au fur et à mesure de leur promulgation.
Une nouvelle nuit de violence dans le Val-d'Oise après la mort mardi d'un jeune homme de 24 ans au moment de son interpellation par les gendarmes. Une bavure selon des proches et des habitants. 9 personnes ont été interpellées cette nuit. Elles auraient jeté des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre, tenté d'incendier une école maternelle et la mairie de Beaumont. La marche des fiertés et de la communauté LGBT pour lesbiennes, gays, bi et transsexuels a lieu aujourd'hui à Jérusalem. Plusieurs milliers de personnes sont attendues pour réclamer l'égalité des droits, quelle que soit sa préférence sexuelle. L'an dernier, lors de cette même marche, une jeune Israélienne de 16 ans avait été poignardée à mort par un extrémiste juif. Un meurtre qui a choqué en Israël. Mais au sein de la communauté gay de la ville, trois fois sainte, on vit toujours dans la crainte d'un nouveau drame. Le reportage à Jérusalem du correspondant d'RFI et France Culture, Nicolas Ropert.
Ren Mattes, militante homosexuelle israélienne, se souvient parfaitement de la Gay Pride de l'an dernier. Volontaire au sein de l'association LGBT de Jérusalem, elle se trouvait juste à côté de Shira Banki quand la jeune Israélienne a été assassinée par un extrémiste juif. La marche des fiertés cette année lui sera dédiée, mais Ren ne cache pas son angoisse à l'idée de retourner sur les lieux du meurtre.
Je dois avouer que j'ai un peu peur. On sait que cette année, tout le monde sera sur ses gardes. Alors j'ai en même temps de l'espoir et des craintes. Certains de mes amis m'ont dit qu'ils étaient effrayés de venir marcher avec nous. Il y aura beaucoup de policiers, parce qu'à Jérusalem, la Gay Pride, ce n'est pas une fête. C'est une manifestation contre ceux qui pensent que nous ne devrions pas être là.
À la tête de l'association qui organise la Gay Pride, Tom Canning remarque que le drame de l'an dernier a fait réagir la société israélienne. Si la plupart des gens acceptent l'homosexualité, les plus radicaux, eux, s'en prennent beaucoup plus ouvertement à la communauté LGBT.
On voit l'extrême droite et les fondamentalistes religieux s'opposer encore plus frontalement à nous. Mais c'est parce qu'ils sentent que la société ne les suit pas. On reçoit beaucoup de menaces. Donc quand on voit que cela peut être dangereux, on va porter plainte directement auprès de la police qui fait une enquête.
L'affirmation des droits des homosexuels est encore difficile à Jérusalem. Les récentes déclarations de Nir Barkat, le maire de la ville qui a indiqué qu'il ne participerait pas à la marche pour ne pas heurter les ultra-orthodoxes juifs, ont déçu. Il s'agit d'une décision électoraliste, estiment les militants LGBT. Ils comptaient pourtant sur ce soutien, alors qu'environ un tiers de la population à Jérusalem est religieuse.
Une alerte humanitaire lancée par plusieurs ONG sur la situation dans l'état de Borno, au Nigeria, en proie aux violences du groupe djihadiste Boko Haram. L'UNICEF et Médecins sans frontières s'inquiètent de pénuries alimentaires et du manque de soins dans les camps de déplacés dans les villes. On compterait 2 600 000 personnes à avoir fui les exactions des islamistes, mais également dans les campagnes coupées du monde. De retour de mission, une équipe de MSF appelle à une mobilisation massive des acteurs de l'aide pour faire face, explique l'ONG, à une situation d'urgence rarement rencontrée, Camille Revel.
Le docteur Isabelle Defourny, directrice des opérations de Médecins sans frontières, rentre de mission dans l'état de Borno. Elle dit avoir découvert un désastre dans des camps de déplacés.
C'est la situation de centaines de milliers de personnes qui sont regroupées dans des villes sous le contrôle de l'armée. Mais ces villes sont coupées de tout, en fait. Donc, un manque criant de nourriture, pas d'accès aux soins. Sur plusieurs sites, on retrouve 60% des enfants dénutris, dont 15 à 20% dans des formes très sévères, avec un risque de décès rapide. Il y a aujourd'hui une épidémie de rougeole en cours. La saison des pluies commence, le paludisme va arriver.
Et l'ampleur réelle de la crise reste inconnue. Selon l'UNICEF, impossible d'atteindre 2 millions de Nigérians coupés de toute assistance. Marc-Antoine de Monclos est chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et spécialiste du Nigeria. Pour lui, cette crise humanitaire tient aux exactions de Boko Haram, mais aussi à la stratégie même de lutte contre les islamistes.
L'armée essaye de sceller des territoires pour se protéger des attaques. Puis alors, il y a une deuxième dimension qui touche beaucoup la population civile, c'est que les pays voisins qui font partie de la coalition contre Boko Haram, Niger, Tchad et Cameroun, ont effectivement voulu aussi mener une guerre économique contre Boko Haram, qui taxe la paysannerie ou qui vendait une partie du poisson pêché dans le lac Tchad. Donc on a interdit aux gens de cultiver la terre ou de pêcher. Et ces sanctions économiques, elles contribuent énormément aussi à la situation alimentaire désastreuse.
Depuis 2009, l'insurrection de Boko Haram a fait plus de 20 000 morts au Nigeria.
Camille Revel pour France Culture. Un mot du temps de ce jeudi 21 juillet, orageux avec 6 départements placés en vigilance orange dans l'est de la France. Les températures au plus chaud de la journée, comprises entre 24 degrés sur le nord-ouest du pays et 35 degrés vers la basse vallée du Rhône. Merci à François-Charles Domergue et Julien Loquet pour leur aide ce matin dans la préparation des journaux.
France Culture présente 3 films de Raoul Ruiz, édités en DVD. Vivez une véritable plongée dans l'univers de Marcel Proust avec Le Temps retrouvé. Suivez Catherine Deneuve en psychanalyste victime de ses intuitions dans Généalogie d'un crime. Accompagnez Marcello Mastroianni dans le tourbillon du conte fantastique de 3 vies et une seule mort. 3 films intrigants au cœur de l'esthétique baroque de Raoul Ruiz. Un partenariat France Culture. L'été est là et la culture prend l'air. La grande table d'été vous emmène sur les sentiers de la création contemporaine. Rencontres, entretiens, chroniques, le magazine culturel de vos vacances. La grande table d'été par Lucille Como, du lundi au vendredi sur France Culture à 12h45. Plus d'infos, franceculture.fr.
Le prochain journal de la rédaction vous sera présenté à 12h30 par Antoine Mercier, mais tout de suite à 9h09 sur France Culture, place à la grande traversée Charlie Chaplin, The Artist, 4e épisode de la semaine, Les Temps Modernes, présenté par Christine Le Cerf et réalisé par Angélique Thibault.